Voici un nouvel épisode de Culte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. Nous de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le train et les voyages. Donc, le train vient d'arriver en gare et je vois qu'on a 3 passagers. Clément, Thibault et moi-même, est-ce que vous êtes bien assis?
Ça va très bien, j'ai changé de fauteuil exprès pour que ça fasse pas de bruit.
Bah écoutez, toi, je pense que dans ce train, on en a pour un petit temps, parce que vu la ponctualité bien connue de ceci, on en a pour un bon bout de temps et pour pouvoir parler de ce train, puisque c'est justement le thème d'aujourd'hui. Pour rien vous cacher, en fait, aujourd'hui, ça a été une journée catastrophique pour moi au niveau transport en commun. Il y a eu un accident et donc le trafic a été interrompu au retour, et même à l'aller, le métro n'arrivait pas. Donc, après avoir pris le train, impossible de pouvoir continuer. Et donc, j'ai fait le trajet à pied, tout simplement. Puisque je parle de métro, que le métro, finalement, c'est un peu un train aussi. Peut-être un assez, assez évident comme ça, qui vient à l'esprit, c'est Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Zazie dans le métro? Mais en fait, de prime abord, ça raconte pas grand-chose. C'est une fille, Zazie, qui arrive à Paris, et dont l'obsession, c'est vraiment de pouvoir aller dans le métro, parce qu'elle veut voir à quoi ça ressemble. Il va y avoir évidemment plein de petits rebondissements, entre guillemets, mais le fait est qu'elle n'arrive jamais à aller dans le métro durant le week-end qu'elle passe, ou les quelques jours qu'elle passe à Paris. Ce que nous cherchions à faire ici, ce n'était pas de raconter une grande histoire, mais plutôt, en tout cas, c'est comme ça que j'avais perçu, toute une démarche en fait, autour du langage. Parce qu'en fait, il faut vraiment prendre les premiers mots, et j'avais préparé le livre. Et donc, le premier mot, en fait, de Zazie dans le métro, c'est « D'où qui pue donc tant ?» se demanda Gabriel excédé. Alors, « D'où qui pue donc tant ?» c'est écrit en un seul mot, bien sûr. Et en fait, c'est vraiment vouloir refléter un langage oral. Et donc, on va retrouver comme ça à plusieurs endroits dans le roman, un peu tout le temps finalement, cette alternance de registres de langage entre quelque chose d'oral retranscrit vraiment comme on prononce les choses, et parfois aussi pour se moquer, un registre de langage beaucoup plus développé. Finalement, c'est assez, c'est très drôle en fait. Hein. C'est très très agréable à lire de ce fait-là. Je sais pas ce que Clément, toi tu en as pensé.
Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça incroyable. Ça fait comme une sorte d'explosion en fait. Il y a un rythme dans le livre qui est phénoménal. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, je trouve ça très théâtral. Je me suis vraiment représenté les répliques comme sur une scène de théâtre et avec vraiment des émotions qu'on pouvait retrouver dans le théâtre. Donc des choses, des jeux presque une espèce de dynamique en fait entre. C'est presque gestuel quoi. Et alors c'est que dans le langage, mais ce sont des répliques. Je trouve très souvent. C'est pensé presque comme un jeu de répliques.
Oui. Et en fait, ce qui est aussi amusant, c'est qu'en fait, la jeune fille, la Zazie, elle est tout à fait insupportable, en fait.
oui.
Les adultes qui sont autour d'elle n'arrivent pas à la canaliser, quoi, finalement. Elle en fait qu'à sa tête.
Et elle incarne aussi une génération. Il y a une histoire de guerre, un peu de génération. Ça fait penser un peu peut-être au tonton Flagger, le côté un peu jeune, cool, détendu, etc., des années 50, mais par rapport aux vieilles générations, hyper, hyper français. C'est la période, justement, du Blue Jeans et du Coca-Cola. Les deux choses qu'elle adore.
Oui. Donc, Et Blue Jeans d'ailleurs qui s'écrit aussi en un seul mot de nouveau.
Oui, Blue Jeans.
DJI ou quelque chose comme ça, jeans, donc vraiment comme ça. Et alors le coca, elle appelle ça du caco-calo, non?
Oui, c'est ça, un caco-calo, ouais. Oui, donc c'est ça. En fait, ce qui est incroyable, je trouve, c'est qu'il y a une espèce de matière, je trouve, dans ce livre. On plonge comme dans une espèce de bain, comme ça, avec le mélange de mots un peu approximatif, cette espèce de sonorité. Et ça crée une espèce de tissu un peu où tout s'enchaîne de façon complètement fluide. Et donc, c'est ça, on est ballotté dans les espèces de prononciations comme ça, entre le caco-calo, le blue jeans, le doux qui pue longtemps. Et on se trouve, il y a vraiment un phénomène comme ça de captation et qui fait penser à la question d'un rêve. Donc, on va pas dire la fin, mais moi, j'avais cru que ça pouvait être une sorte de rêve quelque part. Ça devient tellement intense, tellement n'importe quoi dans le nombre d'événements chaotiques qui surgissent en plein milieu du livre, qu'on peut se retrouver avec un scénario de quelqu'un qui se réveille, etc. Et en fait, ça, c'est ambigu, donc je révèle pas la fin, mais en tout cas, ce scénario-là, c'est pas ce qui ressort de façon claire. Mais ça reste comme une espèce peut-être de trame possible, il y a cette idée. Et alors, je me suis renseigné sur le. Tu disais le premier mot, c'était d'où qui pue donc tant. Bon, mais il y a un pré-premier mot. Et le pré-premier mot, c'est la citation de. Donc, de pas n'importe qui, la citation de Aristote. qui dit donc « Oplasas Ephanisen ». Et « Oplasas Ephanisen », ça veut dire « je détruis ce que je crée ». Donc en fait, on peut comprendre cette idée aussi du songe comme un peu le moteur du livre. Une sorte de création à la fois futile, factice, mais quelque chose qui, voilà, qui apparaît, un jeu, comme une sorte de création avec laquelle on joue et qu'on fait disparaître finalement comme ça.
Oui, et cette critique d'ailleurs du futile, du factice, en fait on la retrouve aussi finalement, critique aussi on va dire de, finalement des débuts de la société de consommation. Parce qu'en fait par exemple, il y a un des parfums qui s'appelle Barbouze de chez Fior. Évidemment, Fior, ben, c'est Christian Dior, mais bon, Fior c'est aussi en même temps le fion quoi finalement. Hein. Donc c'est vraiment de nouveau se moquer de ça. Bon, le Caco Calo et le Blue Jeans, la manière dont c'est écrit, c'est aussi se moquer de tous ces... Ouais. Choses dont, enfin, ces besoins qui sont créés finalement, mais sans jamais être moralisateur, parce que tout est traité par la dérision finalement, grâce au registre de langue utilisé.
Tu disais par exemple, mais voilà, par exemple, dans le texte, ça s'écrit E-G-Z-E-M-P-L-E.
Du coup, c'est écrit à la première personne ?
Non.
Non.
Non, non.
Le narrateur, c'est pas Zazie du coup ?
Non, non, pas du tout.
Ouais, c'est de narration externe.
Ok.
Et du coup, c'est ce qui crée un peu ce côté, je trouve, un peu pièce de théâtre. On place des personnages dans un certain contexte et ça se transforme un peu en course aussi. Ça, c'est le côté un peu qui ressemble à des rêves. Hein. C'est une structure un peu comme une agglutination des gens qui rencontrent d'autres gens et qui construisent un espèce de réseau de train, justement de train, on est bien, mais de train de personnages et qui progressent dans l'histoire.
Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de théâtre parce qu'en fait, en refeuilletant simplement, en fait, tu as vraiment une majorité de dialogue. Hein.
Ouais.
Tu as très, très peu de narration. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand il y a de la narration, parfois, on reprend un peu le style de la personne qui était en train de parler juste avant ou qui va parler juste après.
Oui, oui, d'accord.
Et donc, on n'a pas toujours le même style non plus dans les quelques passages décrits, on va dire.
Oui, c'est bien possible, effectivement, tout à fait. Je n'avais pas trop, pas spécialement marqué, mais c'est marrant que tu le dis, effectivement, en regardant. Et alors, je pense aussi à un passage, je ne sais pas si je vais retomber dessus comme ça, mais il y a une référence au dialogue de Hamlet qui est très drôle. « Debout, Gabriel médita, puis prononça ces mots, l'être ou le néant. Voilà le problème. » Donc, être ou ne pas être, telle est la question. Là, c'est l'être ou le néant, voilà le problème. Monter et descendre, aller et venir, tant fait l'homme qu'à la fin il disparaît. Un taxi l'emmène, un métro l'emporte, la tour n'y prend garde, ni le Panthéon. Paris n'est qu'un songe, Gabriel n'est qu'un rêve, charmant. Zazie, le songe d'un rêve ou d'un cauchemar. Et toute cette histoire, le songe d'un songe, le rêve d'un rêve. À peine plus qu'un délire tapé à la machine par un romancier idiot. Oh, pardon. Là-bas, plus loin, un peu plus loin que la place de la République, les tombes s'entassent de Parisiens qui furent, qui montèrent et descendirent les escaliers, allèrent et vinrent dans les rues et qui tant firent qu'à la fin elles disparurent. Un forceps les amena, un corbillard les remporte, et la tour se rouille et le Panthéon se fendit plus vite que les eaux des morts, trop présents ne se dissolvent dans l'humus de la ville, tout imprégné de soucis. Et donc il y a la référence typique typique de Shakespeare dans Hamlet, et cette idée de songe qui fait écho aussi à cette citation de Shakespeare que the world's a stage, donc la vie est un songe, une pièce de théâtre, et menée par des idiots. Et donc on dirait vraiment une sorte de clin d'œil. Donc je me suis un peu demandé finalement pourquoi c'était pas une pièce, peut-être c'est une sorte de pièce quand même. Je ne sais pas quel est ton passage préféré, mais enfin, donc moi j'aime bien ce truc-là. Et alors, cette scène, c'est donc la vie est une pièce de théâtre, la vie est factice, et ce passage-là un peu philosophique, dans Hamlet aussi, est très profond. Là, ça, c'est quelque chose qui dit en face de la Tour Eiffel, pas loin de groupes de touristes qui passent un peu là pour visiter Paris, et qui tombe un petit peu en admiration devant son dialogue philosophique, et qui le poursuivent pour obtenir des explications. Comme si ça devenait donc presque un gourou, parce que en tant que guide touristique, il est en train d'expliquer la vie finalement aux gens qui croisent. Alors que comme personnage, c'est juste un type qui fait donc son métier, c'est d'être de jouer le travesti dans un bar gay, et lui fait croire qu'il fait un travail de gardien de nuit. Mais voilà, donc il y a un côté comme ça un peu philosophie de tout le monde, philosophie du quotidien. Et alors moi, j'ai un chapitre préféré. C'est vers la fin, c'est pas du tout la fin quand même. On n'apprend rien sur la fin. C'est le chapitre 17.
Ouais, c'est plein, vraiment plein de dérision finalement tout le temps, et finalement ben, jusque dans le titre, hein, puisque Zazie dans le métro, ben, elle n'est pas dans le métro. Donc c'est comme un ultime pied de nez finalement à tout le roman.
C'est vrai, ouais. Ouais, donc le jeu sur ce qu'on essaye d'éviter de faire, ou sur le comme une sorte de pause, c'est vrai, la comédie qui fait un peu une pause dans la vie, le fait de tourner autour de quelque chose. Je sais pas si on avait dit, mais le métro, c'est le centre d'intérêt principal de la petite fille qui est toute contente de visiter Paris pour aller dans le métro, c'est son rêve. Et le jour où elle arrive avec ses oncles à pouvoir visiter Paris, le métro est en grève, donc impossible de rentrer dans le métro. Et là, les problèmes commencent.
Surtout pour ceux qui l'entourent, hein, d'ailleurs.
Absolument.
Kuno, du coup, il casse pas mal de cordes alors dans ce milieu.
Oui, c'est ça. Et parce qu'en fait, en plus, donc, comme ça, ça a l'air juste d'une parodie ou quelque chose comme ça. Mais en fait, Clément a cité Hamlet, mais aussi finalement, tu as parlé de l'être et le néant, donc il y a aussi une référence à Sartre.
Ouais, ouais.
Et en fait, c'est truffé de références. Hein. J'avais vu dans un dossier ici, mais il y a des références à Simone de Beauvoir, à Boris Vian, Rabelais, Montaigne, Pascal, La Fontaine. Je ne cite pas tous les extraits à chaque fois, mais Flaubert, Hugo, enfin bref, Rimbaud, je vois encore ici. Donc, on peut repérer, quand même être, je pense, assez bien lettré, ou alors disposer d'une édition qui permet... qui a des petites notes de bas de page, donc c'est le cas de la mienne, et donc qui permet de saisir un peu mieux. Donc voilà, c'est pas juste une bouffonnerie, quoi.
Ouais, ouais. Et Queneau, c'était quelqu'un d'assez impressionnant. Du point de vue des connaissances, il parlait, je sais plus combien de langues, mais en linguistique, c'est incroyable. Et puis évidemment, et donc des connaissances littéraires dans tous les sens. Et c'est vrai que ça semble un petit peu comme un livre de détente de quelqu'un qui aurait beaucoup lu et qui joue un peu avec tout ça. Et alors, en passant, il y a des petites références, mais là, des micro-références un peu plus pour rire, mais qui sont rigolotes quand même. Même à Kant, Saint-Thomas, ou en plein entre deux conversations en argot, tout de suite, un petit commentaire qui dit que c'est sur le... En réfléchissant à l'abstraction selon Saint-Thomas, qu'il lui répond d'aller se faire voir. Et genre de truc. Et quand je disais geste, en fait, c'est des parenthèses qui indiquent geste dans le texte. Donc, presque comme des didascalies. Quoi.
Ouais, on en revient au théâtre, hein, quoi, finalement, encore une fois.
Ouais.
Maintenant, c'est vrai qu'au théâtre, tu saisirais moins tout ça, tu apprécierais moins, ça passerait plus difficilement.
Ouais, peut-être.
Je pense pas que tu aurais le même plaisir, en tout cas, que tu l'as à la lecture.
Mais c'est un challenge d'acteur, je trouve, en fait. On sent qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre dans le texte qui va au-delà des mots.
Oui.
Et qui est visuel, quoi, d'une certaine façon, et qui serait très chouette à voir sur scène.
Oui, parce que finalement, tu as aussi du comique de situation ou tu as du comique de répétition, comme le perroquet qui dit tout le temps tu causes, c'est tout ce que tu sais faire.
Ouais.
C'est aussi une référence au fait que tout ça, en fait, c'était un peu vain, quoi, finalement, toutes les discussions qu'on retrouve ici. Quoi.
Non, c'est vrai.
Ça dit dans le métro, donc on entend qu'évidemment il y avait une grève, un petit crime, et puis si on parle de crime et de rail, il y a le crime de l'Orient Express qui s'affiche à nous, avec une œuvre d'Agatha Christie qui a été portée à l'écran récemment, et je dis que tu l'as vu, et d'après ce que tu m'as dit, tu l'as trouvé plutôt nul.
Oui, bon, en fait, je ne me rappelle plus si je l'ai lu, et si je l'ai lu, c'était il y a quand même très longtemps. Mais par contre, oui, évidemment, Agatha Christie, quand on pense à ça, c'est tout de suite le plaisir d'une énigme à résoudre. Évidemment, c'est un peu ça qu'on recherche aussi, finalement, quand on va avoir une adaptation. Bon, en plus, je pense que Le Crime de l'Orient Express a déjà été adapté aussi auparavant. Donc ici, je parle de l'adaptation de Kenneth Branagh, je pense quelque chose comme il y a 3 ou 4 ans, qu'il a récidivé depuis, hein, puisqu'il y a eu Mort sur le Nil... qui est sorti, en fait, qui traînait sur les étagères, on va dire ça, parce que avec le Covid, ben voilà, il attendait là sa sortie. Finalement, donc, il est ressorti il y a quelques semaines. Le Crime de l'Orient Express, bon, évidemment, tout le monde connaît, donc ça fait venir, ça donne envie, déjà, parce que c'est très connu. Mais alors aussi, ce qui était terrible, c'était le casting qu'il y avait pour ce film, quoi. Donc, il avait réussi. Donc, lui, il s'est approprié le rôle de Hercule Poirot. Je vais y revenir dans un instant, mais c'est une très, très mauvaise idée. Mais alors, dedans, qui est-ce qu'on recommande ? On retrouve Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, de mémoire, Penelope Cruz, non ? Judi Dench, il me semble aussi. Donc, c'est casting de très, très haut vol, des grands noms. Donc, hop, bah, moi, ça me donnait envie d'aller voir ça. Bah, en fait, il y a plusieurs problèmes au film. Hein. Le premier problème, c'est Kenneth Branagh, donc le réalisateur, qui a vraiment voulu reprendre le rôle de Hercule Poirot. Alors, Hercule Poirot, c'est un Belge. Et donc, il veut parfois singer un accent supposé francophone.
Mais vu du côté anglais, c'est ça qui est rigolo, quoi. Mais oui, c'est, pas même, c'est pas les mêmes clichés, quoi.
C'est ça. Donc, à certains moments, il lâche comme ça. Il faut le voir en VO, hein, bien sûr, pour, mm-hmm. pour voir ça. Il lâche un merci ou, soi-disant, mm-hmm. un mot français, mais qui ne sonne pas du tout français, parce qu'on sent que c'est pas, on sent que c'est pas un francophone qui le dit. Donc, ça ressemble absolument à rien. Mm-hmm. Il est pas du tout crédible, je trouve. Alors, je trouve que physiquement, sa moustache aussi ressemble à rien. Et il y a pas de... Ça manque il se prend terriblement au sérieux, en fait. C'est ça le problème. Et alors, le deuxième souci aussi pour moi, c'est que il a voulu un peu verser dans le spectaculaire, en fait. Or, Agatha Christie, c'est pas ça. C'est le plaisir de l'énigme, comme je disais, pas du tout un film avec grand spectacle ou.
Mais c'est ça, moi j'ai relu le début là, pour le podcast et je trouvais ça incroyable. Le moment, c'est dans le titre, hein, le crime de l'Orient Express, il y a un crime dans l'histoire quand même, c'est un roman policier. Voilà, le crime, il arrive, mais c'est très drôle, c'est vraiment le summum du flegme anglais. Quoi. Donc il y a trois chapitres d'introduction, simplement on va dans le train, on mange un petit peu, on dit. Et puis tout d'un coup, Hercule Poirot, il est invité dans la chambre de son pote, certain monsieur Book, qui est le chef de la compagnie de train apparemment, et qui lui dit, oui, écoutez, monsieur Hercule Poirot, eh bien cette nuit, voilà, quelqu'un a été assassiné. Et Hercule Poirot, il dit, ah bon, ah bah tiens, ça c'est intéressant. Et voilà qui va nous permettre de résoudre une énigme passionnante. Et puis voilà, pouf, chapitre suivant, et là on commence les enquêtes. Donc c'est extrêmement, en même temps, c'est pour ça qu'on adore Agatha Christie, il y a le côté vraiment très, très tranquille, quoi. Mais c'est vraiment très, très rigolo à voir, quoi.
Oui, c'est ça, et donc le film trahit, en fait, vraiment, parce que t'as pas... C'est tout de suite grandiloquent, quoi, finalement. La scène d'ouverture, c'est, je ne sais plus ce qu'il fait à Istanbul, ou je ne sais plus dans quel pays. Et il a une scène comme ça un peu spectaculaire pour montrer que c'est Hercule Poirot. OK, ça ne sert strictement à rien, ça n'apporte rien à l'histoire. Et voilà, donc je ne me rappelle pas du livre, mais ce n'est pas du tout dedans non plus. Mm-hmm. Donc voilà, c'est vraiment un coup dans l'eau, quoi.
On essaie d'en faire un James Bond un peu.
Peut-être qu'effectivement, il y a une influence comme ça de ces films à grand spectacle qui fonctionnent très bien. Et... Ouais, peut-être.
Il y a les explosions.
C'est bien possible. Je l'ai vu aussi, je t'avoue. Je n'ai pas cherché à le revoir depuis ce film-là.
Pas de course-poursuite en motoneige ou...
Si, si, bien sûr que si. Course-poursuite, ça y est. Hein. Ah oui, oui.
Et pas en motoneige ou...
Ah non, ça non.
Pour moi, l'adaptation, par contre, que je trouve incroyable de Agatha Christie, c'est ceux avec David Suchet.
Mais là, tu as plus l'esprit parce que tu
ouais.
il est un peu comique quand même, parfois, Hercule Poirot. Mmh.
Ouais, ouais.
Dans le film, pas du tout. Il essaie de le faire paraître comique, mais c'est raté.
Il essaie de parler français.
Oh, ouais, ça, c'est le pire.
Mais alors, ça, c'est rigolo parce que Agatha Christie elle-même, hein, elle essayait de. Elle n'était pas vraiment francophone, je pense, mais. Ce serait intéressant de savoir pourquoi elle a choisi un personnage belge. Mais en fait, au début du crime de l'Orient Express, j'ai regardé dans le texte anglais, elle fait une grosse erreur de français pour donner un côté un peu pittoresque. C'est Hercule Poirot qui dit plutôt que de dire donc il est dans son à Istanbul et puis il doit prendre le train pour partir dans l'autre sens. Et il est un petit peu en retard et donc il répond dans le texte en anglais en français et dit ah voilà ce qui est embêtant. Alors qu'en français on dirait justement voilà qui est embêtant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que elle a voulu trop bien faire. Elle s'est dit, bah voilà qui est embêtant, c'est pas. Mais c'est une interjection. Donc, quand on dit, ah voilà qui est embêtant, voilà quelque chose qui est embêtant. On dit pas, voilà c'est ce qui est embêtant, quoi. C'est pas comme ça qu'on parle en français. Et donc elle écrit ça. Peut-être, je sais pas si elle s'était renseignée quand même qu'elle a voulu faire du zèle. Mais on sent ce côté-là aussi dans le texte, un peu malhabile de vouloir créer une ambiance francophone, mais sans vraiment. L'équivalent en français, ce serait peut-être les Black et Mortimer de Edgar P. Jacobs, avec leurs old chaps, qui essayent d'incorporer des expressions, une ambiance anglaise dans un contexte francophone.
Pareil de tout ça avec vous me fait vraiment dire que maintenant que je devrais en reprendre un, et pourquoi pas celui-là. Enfin, quoique je me souviens un peu trop de la fin, donc ça, ça perdrait son intérêt.
Ou peut-être Mort sur le Nil.
Oui, mais de toute façon, je n'irai pas voir le film. Ça,
Tu boycottes le Mort sur le Nil?
Oui, clairement. Je trouve qu'aller au cinéma, si tu passes à la télé, why not? Mais tu vois, aller au cinéma, il y a quand même une démarche que tu entreprends, donc il faut que ça vaille la peine, quoi.
Ouais, je comprends.
Et ce que j'en ai entendu des critiques, c'est qu'il ne s'est pas amélioré. Par contre, ce sera un autre sujet, mais Kenneth Branagh a sorti un autre film il y a quelques semaines aussi. qui s'appelle Belfast et qui est née en fait de réflexion pendant le confinement. Il s'est un peu souvenu de son enfance, etc. Donc tout à fait un autre sujet. Et là, qui a bien meilleure presse, quoi. Donc ça que j'irai voir. Je referme la parenthèse. Donc tout n'est sans doute pas acheté chez lui, hein, mais ce film-là, en tout cas. Je conseille pas trop, quoi. Surtout si on aime Agatha Christie, en fait.
Ouais.
Peut-être que si on est plus abreuvé de films à grand spectacle, c'est ce qu'on recherche. Oui, mais nous voilà, pour moi, on trahit un peu le matériau originel.
Ça me fait penser aussi, en retournant à la maison sur le chemin, je suis tombé sur une boîte à livres qui avait un roman policier de Ex Brya, série d'Imogène. Il y a eu des adaptations assez chouettes au cinéma de ça, avec, je crois que c'est Catherine Fro qui fait l'actrice. Et donc elle joue aussi, alors là c'est un peu aussi une espèce d'appropriation culturelle de l'Écosse, mais donc un personnage très marqué dans son identité écossaise, et qui est drôle.
Un des livres d'Agatha Christie qui m'a bien plu, c'était Ils étaient 10, donc ça c'est le nouveau titre.
Ah, oui, bien sûr.
C'était Dix petits nègres, qui a été changé, pour donner le côté raciste du titre.
Adapté en série par M6.
Ah ouais.
Une série en 6 épisodes, qui est passée sur la RTBF aussi. Enfin, je ne sais plus si RTBF produisait ou a acheté les droits, qui n'était pas si mal.
Moi, je dirais bien son premier, savoir comment l'introduit Hercule Poirot. Donc, il n'y a pas que des Hercule Poirot hein, apparemment.
Non, et ce n'est pas le seul avec un train non plus, parce que je pense qu'il y a le train bleu, quelque chose comme ça. Parce que ça, j'ai dû lire aussi. En parlant avec vous, parce que je ne me rappelais pas. Comme quoi, le train, c'est vraiment. C'est inspirant, en fait. Hein.
Ouais.
Bon, il y a aussi le train de 16h50. Pardon.
Ah oui.
Passager pour Francfort. Et les horaires de train, c'est aussi des choses typiques d'intrigues policières. Le train qui passe à une certaine heure. Et, peut-être parce qu'il y a ces questions d'horaire. Sherlock Holmes aussi, ça parle beaucoup de train, finalement, avec ses déplacements un peu. Vraiment. Et donc son premier, ça s'appelle, donc complètement inconnu, La mystérieuse affaire de Steele.
Ah oui.
Et donc c'est à la fois son premier roman et celui où apparaît pour la première fois Hercule Poirot. Il aurait eu 27 ans au moment de la publication. Et donc je ne sais pas s'il n'est pas connu parce que c'est encore un petit peu pas très bon, ou est-ce que... voilà, donc c'est un peu un mystère, je vais aller essayer de regarder un petit peu de plus près. Et vous saviez donc qu'elle était archéologue en fait, Agatha Christie.
C'est pas son mari qui l'était ?
Et donc elle l'a aidé, hein, elle était avec lui. Dans les fouilles, chantier de fouilles.
C'est de là qu'il y a eu, qu'elle a puisé une certaine, l'assuration pour plus. Ben, c'est pas pour mort sur le Nil, justement.
Bah oui, bien sûr. Ah ouais. Voilà. Non, c'était quelqu'un de vraiment très spécial. Ouais.
Si on parle du train et surtout si on part un peu plus vers l'est, on pourrait parler de la Russie et d'Anna Karenine de Tolstoï. Ça, c'est vraiment un des grands romans russes avec Crime et châtiment de Dostoïevski. Et c'est en fait, d'après certains, c'est vraiment la deuxième œuvre russe qui a fait une entrée remarquée dans la culture européenne. Et là, on voit en fait, au départ, c'était le titre originel, c'était, si je me souviens bien, Deux mariages, deux histoires.
Ah oui.
On parle de Anna Karenine qui descend du train, qui rencontre le comte Vronsky, et directement, c'est le coup de foudre. Par la suite, il y a un petit côté Emma Bovary avec des infidélités faites à son mari, et puis un petit peu tourmentée. Elle va donner naissance à une fille. Ça va pas très bien se passer. Par la suite, elle ne sera pas très sûre de quelle direction prendre. Donc, c'est une histoire qui commence et qui se termine malheureusement à la gare, avec une fin qui laisse des marques, qui a été pensée très tard en fait dans l'écriture de ce roman. Je lisais quand il a été publié par chapitre dans une gazette de l'époque. Et le dernier chapitre, on a dit qu'il faisait un petit peu scandale. Léon Tolstoï s'est fâché avec l'éditeur de la Gazette et donc a décidé de le publier sur le côté, sous forme de livre. Ça reste une œuvre assez importante où on voit qu'il a un regard assez critique sur la société russe, la haute société. Lui qui était lui-même plutôt aisé, mais qui a eu toujours un côté assez humaniste et proche des pauvres, proche des gens aussi. Donc ça reste un livre assez spécial qui est un petit peu comme beaucoup de romans russes avec beaucoup de personnages ont leur nom, puis ils ont aussi les petits surnoms, donc on peut vite s'y perdre.
Ça c'est typique des Russes.
Il faut parfois s'accrocher, mais sinon...
C'est des surnoms, puis alors il y a leur deuxième prénom en fait, souvent qui sont utilisés aussi à la place de leur Non, et tout le monde trouve ça normal. Donc en fait, un sachet peut s'appeler tout d'un
Alexander.
Coup. Voilà, et en fait, c'est le, on prend alternativement le premier ou le deuxième, et les, tout le monde doit connaître ces deux prénoms. Donc c'est, ça peut dérouter un peu au début. Ouais.
Ouais, ça, du coup, ça multiplie tous les personnages par deux ou par trois.
C'est ça.
Et ça devient vite compliqué, surtout qu'il y a. En général, ça ne se limite pas à deux ou trois personnages. Il y a souvent pas mal de personnages secondaires aussi.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir s'accrocher.
En Dostoevsky aussi, c'est pareil. Hein. Alors, si vous aimez bien le cinéma britannique, je crois qu'il y a une adaptation en 2012 de Keira Knightley dans le rôle de Anna Karenine. Mais ça doit être... Il y a quoi? Il y a 900 pages dans ce livre. C'est quand même assez immense, même un peu plus.
Oui. Et du coup, Tolstoï, on en parle aussi dans une œuvre dont on parlait hors ligne, l'œuvre Le Monde d'hier.
Ah ouais.
Mémoire d'un Européen, je pense que c'est le titre complet
de
Stefan Zweig. Et voilà. Là, il parle de Tolstoï, par exemple, une des sépultures les plus modestes.
Les plus belles, donc pour lui, de toute la Russie. Il a été visité donc au début des années 20. Mais en fait, ce livre, donc moi, ça a été vraiment une claque incroyable donc pendant les semaines dernières, là, quand j'ai lu ça. Donc, on me l'avait énormément conseillé et je me disais qu'effectivement, bon, l'auteur était assez respectable, ça avait l'air bien, intéressant, etc. Mais je voyais ça comme quelque chose, quand même, un certain effort de lecture. En plus, c'est quand même un gros bouquin, mais c'est vraiment passionnant, c'est incroyable. Et alors, sur plein de niveaux différents qui touchent à des choses complètement essentielles, quoi. Donc, c'est vraiment le récit de quelqu'un qui a grandi dans la littérature, donc pour faire toute sa vie dans la littérature, et qui décrit de façon extrêmement claire, pas forcément d'envolée lyrique, etc. Donc, c'est, bon, il est écrit très bien par ailleurs, mais là c'est vraiment un peu une tradition peut-être un peu allemande de récit, aussi de vocation, un peu. Mais en fait, on le suit depuis son enfance, comment il étudiait, ce qu'il lisait, comment il voyait ses profs, ses cours, etc. Avec un peu sa naïveté de ce moment-là, et sans essayer de en dire plus ou en dire moins, mais voilà, simplement d'expliquer les choses. Et comment il évolue, a publié son premier roman, sa première poésie, les gens qu'il rencontre, ce qui l'inspire moins, ses craintes, etc. Et petit à petit, on découvre en fait toute l'Europe du XXe siècle. Donc c'est quelqu'un qui voyageait partout, il prenait justement le train énormément. Il rappelle au passage que les frontières étaient beaucoup plus ouvertes dans les années 20-30, justement, ce qu'il appelle le monde d'hier, que les années 40, le moment où il publie son livre. Et il va dans toutes les capitales européennes, donc il va à Vienne. La première ville qui l'intéresse, c'est pas Paris. Donc il décrit de manière assez émouvante, parce que pour lui c'était quelque chose qu'il a vraiment marqué dans son adolescence, son début de sa vie adulte. C'était Bruxelles. Donc il a beaucoup apprécié son passage à Bruxelles, les gens qu'il a visités. Et il s'est passionné pour Verhaeren, le poète bruxellois, parce qu'il trouvait que c'était une façon de chanter de la technique qui était vraiment intéressante, pertinente. Puis après, évidemment, il a été à Paris, il a retrouvé aussi plein d'habitudes, il s'est établi là-bas un certain temps. Et il a essayé de construire, toute sa création, toute sa vie, ça se construit par des liens, des relations. Et dans ce monde-là, tout d'un coup, apparaît la guerre de 14, l'explosion que ça fait, les déchirures dans toute l'Europe. Les conséquences horribles de la guerre, l'inflation, passage incroyable du livre, lui-même explique qu'on pourrait en faire un livre passionnant, des films, etc., juste avec la notion de l'inflation, tellement que ça a complètement bouleversé la réalité du quotidien. Mais au passage, ça n'empêche pas de décrire des scènes incroyables pendant un chapitre qui en soi vaut vraiment la peine d'être lu, justement par rapport à cette question d'inflation. Donc quand les gens, effectivement, donc lui par exemple, le temps qu'il négocie un contrat pour obtenir son salaire de par rapport à un livre qu'il envoie, le temps que la lettre lui revienne, il a tout juste assez pour payer le timbre. Donc ce genre de niveau de délire absolu. Et comment ça se transporte finalement depuis l'Autriche, donc qui a été impactée la première, jusqu'à l'Allemagne, qui au début n'était pas trop touchée, et après qui a complètement dépassé toutes les bornes en termes d'inflation. Et donc le chaos que ça génère dans la société, et puis les premières sociétés fascistes en Italie, et puis les reprises nazies en Allemagne. Comment tout ça explose. Et puis voilà, la guerre de 40, lui, sa fuite en Amérique du Sud. Et le moment de sa publication, donc là, c'est évidemment tragique, mais c'est sa vie à Stefan Zweig. Donc il publie ce livre-là, donc en 42. Il n'a aucune idée du moindre indice de fin à cette guerre. Pour lui, ça atteint le summum de l'horreur. Et il meurt quelques mois après, quoi. Donc il envoie ce manuscrit, c'est un peu ses dernières mémoires. Et puis il meurt, en fait. Hein. Donc il se suicide en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine. Mais par contre, le livre n'essaie pas d'aller dans cette direction-là. C'est vraiment plus un constat de ce qu'il a vécu et extrêmement positif, d'ailleurs, finalement. C'est toujours, je trouve que c'est un livre qui donne vraiment, bizarrement, qui donne vraiment la pêche, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement actif, qui a vécu tellement de choses, que c'est vraiment un encouragement à aller voir ce qui se passe, à bouger, même à aller dans des cafés, parce que c'était aussi la société de Vienne, c'était ça, quoi, le fait de manger des pâtisseries dans les cafés, en parlant de littérature, ça fait partie de sa vie. Ce côté aussi très gentleman, très, très poli. En Angleterre, donc là où il s'était réfugié pendant la guerre de 40 au début, il n'ose pas donner son opinion d'immigrer parce qu'il trouve que déjà les Anglais sont bien gentils de l'accueillir et qu'il ne faudrait pas qu'il commence à dire ce qu'il pense d'un point de vue politique. Mais on a envie de lui dire, mais quand même, quoi, il faut qu'il puisse faire quelque chose. Enfin, donc il a ce côté un peu donc poli, mais à l'extrême. Et alors, au passage, en plus, on apprend tout sur son écriture, donc ça donne vraiment envie d'aller voir d'autres choses. Il cite beaucoup de livres à lui qui, en contexte, donc ça me permet de comprendre un peu ce qu'il en pensait, comment ça s'est fait. Voilà. Et puis pour revenir à ce que tu disais, donc, un passage aussi très intéressant, il va en Russie donc dans les années 20, au début donc, des premières révolutions russes, début du communisme, et il raconte un peu son expérience sur place. Quoi. Et il va voir, il rencontre Tolstoï, je crois, hein, donc c'est où la tombe de Tolstoï qui était déjà mort, je ne sais plus. Effectivement, il se rend sur place pour. Je crois, il fait une conférence par rapport à Tolstoï, et que c'est la raison pour laquelle il est invité en Russie. Et de lui qui d'habitude fuit, alors ça c'est la particularité aussi de Stefan Zweig, c'est qu'il essaye de fuir la politique de manière générale. Il fait un genre de distinction entre l'art et la politique. Et par exemple, donc, alors qu'il a rencontré énormément de monde, il n'a jamais vraiment essayé de fréquenter des politiciens, par exemple. Mais ça n'empêche pas, donc, dans le cas de Tolstoï, de faire des discours donc, sur la paix. Ça, c'est un clin d'œil aussi à ceux qui j'ai entendu passer des genres de réactions violentes par rapport au livre russe récemment, et notamment à Tolstoï, qui serait boycotté à certains endroits, alors que c'est justement l'écrivain qui pourrait défendre le plus justement une situation de paix et d'opposition à la guerre de Poutine en ce moment. Pendant les deux guerres, en fait, je crois 14 et 40, il a essayé de se mobiliser au nom du pacifisme. Donc, il y a notamment un article qui vaut la peine d'être lu, parce que c'est assez bref, historiquement c'est très important, un appel à la réconciliation pendant la guerre de 14. Et cet article-là, c'est amusant, parce qu'il a essayé de passer à travers la censure, en le faisant passer comme au travers d'un complice en France, qui a fait semblant de s'insurger contre une critique allemande. Et donc, comme c'était une critique d'un Français contre un Allemand, alors on l'a publié en France. Donc, il a fait une fausse critique, mais avec la complicité donc, de Stefan Zweig, en disant que cet Allemand est en train d'insulter notre nation, etc., en France, etc. Et donc, l'article a été publié en entier, et c'était son objectif, c'était de faire lire son texte. Donc, il a un peu rusé, comme ça, pour essayer de sauver la paix pendant la guerre. Et alors, c'est ce que moi, j'ai découvert dans ce livre-là, c'est à quel point aussi la société, quand même, de l'entre-deux-guerres, avant la guerre de 14 et entre la guerre de 14-40 était extrêmement, paradoxalement hein, par rapport à ce qui s'est passé, mais en fait a priori assez solide pour protéger justement le monde contre ce genre de dérive. Et donc ce qui s'est passé, c'était quand même effectivement une espèce d'ouragan. Et par exemple en Autriche, le parti majoritaire, c'était un parti démocratique, libéral. Donc il y avait une situation dans le monde qui était, c'est pas exactement comme on peut le penser de manière assez simple, voilà, ils ont perdu des sous, l'inflation, donc tout le monde est devenu fasciste directement, voilà. Non, il y avait en fait beaucoup de résistance naturelle de la population qui en fait, se reconnaissait absolument pas dans les mouvements révolutionnaires. Cette espèce d'action armée, en fait, des petits groupes fascistes organisés pour essayer de créer des répressions violentes, de multiplier les actions choquantes, etc., petit à petit, qui prennent le pouvoir en main. Tout ça, ça a eu un impact tellement fort donc ça a été une espèce de coup d'État sur coup d'État et que en fait, le monde s'est retrouvé en otage. Quoi. Et ça, c'est quelque chose de vraiment impressionnant à tenir compte, je trouve, dans d'autres contextes aussi, de se rendre compte à quel point des petits groupes de gens mobilisés peuvent complètement désarçonner des équilibres gigantesques, si jamais on se rend pas compte de ça à temps. Quoi. Mais donc voilà, un livre impressionnant, d'informations et de couleurs aussi, enfin d'explications sur le monde, justement le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui, un petit peu l'art, un peu tout. C'est un livre assez dingue et qui se lit. Donc je trouve que, voilà, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est justement tellement, c'est très prenant. Il y a une C'est assez dynamique, c'est honnête, précis, clair.
Et d'ailleurs, là-dessus, il explique en fait sa technique.
Oui, absolument.
Ça, c'était aussi appréciable. Parce qu'il a une partie sur la vie d'écrivains, et donc il détaille un petit peu la vie des écrivains de l'époque. Beaucoup ne cherchaient par exemple pas la gloire ni l'argent. Vivaient sans téléphone, sans machine à écrire, sans secrétaire. Ils aimaient écrire à la main, comme les écrivains le faisaient il y a 1000 ans. Et les maisons d'édition étaient aussi plutôt minimalistes. Si on parle de son style, qui est un style assez dynamique, fluide et lucide, lui, il explique que, par exemple, en tant que lecteur, s'il serait, par exemple, vraiment pour la réédition de pas mal de chefs-d'œuvre et avec l'idée de couper des pans entiers des livres.
C'est un passage choquant. Il est pour le Reader's Digest.
Et ça, j'avoue que c'est une idée qui me tend très bien aussi, d'avoir... Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, des films qui sont réédités, peut-être des chansons qui sont rééditées aussi. Alors, pourquoi pas quelques œuvres sans les censurer, mais peut-être faire une version plus dynamique en coupant des passages qui seraient un peu...
Ouais, c'est polémique, en fait. Hein, mais c'est un peu ce qu'on appelle le découpage, finalement, le découpage de livres. Comment présenter un livre, ça peut se faire dans des performances de 1 heure, 2 heures, tout ça. C'est particulier. Mais moi, je trouvais, donc autant ça, je trouve, ouais, c'est compliqué, mais par contre, ça explique effectivement lui, sa façon d'écrire, comme tu disais. Bon, en fait, il écrit toujours plus que ce qu'il publie. Et à la fin, donc, pour lui, ça lui procure presque un certain plaisir de travailler de manière incroyable pour essayer d'accumuler un nombre d'informations phénoménales, de détails, et d'en laisser qu'une infime partie dans la publication finale. Notamment donc, au niveau de ses biographies, parce qu'il a écrit un nombre impressionnant de biographies aussi. Et ça, c'est bon à savoir, parce que quand on voit quelqu'un qui écrit sur autant d'auteurs différents, on peut être un peu suspicieux et se demander d'où ça sort, tout ça. Mais non, c'est quelqu'un qui juste travaillait énormément, et donc a réellement accumulé des informations gigantesques sur toutes les personnes qu'il a... à partir desquels il a travaillé. Et en fait, effectivement, donc, possède cette habitude de d'abord commencer par écrire un texte très long, et après, donc, il explique que c'est là que le travail commence vraiment. Voilà, ça paraît un peu snob, mais que c'est à partir du moment où il a fini, donc ses pavés, que là, il commence à découper tout le texte, surtout à essayer de réécrire les choses pour justement que ce soit plus clair, plus fluide, plus facile à lire, en même temps précis. Il raconte qu'une fois, sa femme l'avait retrouvé complètement rayonnant, donc à table un soir. Et il lui a dit, bah oui, j'ai réussi à retirer un paragraphe complet de mon texte. Donc j'ai réussi ma journée, quoi. C'était son challenge principal.
Oui, il se vante même, je crois qu'il le dit comme ça, que s'il y a un art qu'il est parvenu à maîtriser, c'est celui de laisser des choses derrière, couper le texte. Il maîtrise à la perfection. Et puis, à côté de la vie d'écrivain, il y a aussi la réflexion sur la vie d'artiste, sur la création en elle-même. Un passage assez intéressant aussi. Et on sent le sentiment d'un homme européen, profondément européen, une sorte d'Erasmus du siècle dernier, avec des passages dont tu parlais à Bruxelles, mais aussi à la mer du Nord, en Belgique, à Ostende ou au Coq. Et un moment, je me souviens, donc, quand il y a déclaration de la Première Guerre mondiale, il est de retour, il passe par Verviers, donc, qui était la dernière station à l'époque, et il voit sur la plateforme d'en face, ou sur les rails d'en face, un train qui passe avec des canons. Donc, les Allemands arrivent déjà avec leur matériel, ils s'apprêtent à envahir la Belgique, et par la suite, ça devient compliqué, étant donné qu'il devient un peu, en étant autrichien, il devient un petit peu un paria, ça devient compliqué de voyager à l'étranger. Il doit parfois passer des heures et des heures à compléter tous les formulaires. Il devient une sorte de réfugié, en fait. Alors que lui avait cette facilité d'aller aux États-Unis, en Inde, presque avec un bagage et rien d'autre, sans passeport.
Il explique que tout le monde aurait du mal à le croire quand il explique qu'effectivement, dans les années 20, n'importe qui pouvait se présenter, aller aux États-Unis, débarquer, sonner à une sonnette où c'était marqué embauche, et si jamais tu convenais à l'emploi, te faire embaucher.
Pour revenir sur la guerre, je trouve que c'est intéressant de voir son approche sur la Première Guerre mondiale, qu'il appelle en fait la drôle de guerre. Souvent, on parle de la drôle de guerre comme étant épisode en plus ou moins en 1939.
Ah oui, ici, d'accord.
La Première Guerre comme étant très bizarre, parce qu'il n'y avait aucune raison, il n'y avait pas... Ce n'était pas une bataille d'idées, ce n'était pas une bataille de liberté contre fascisme, C'était simplement des économies qui étaient devenues surgonflées, qui avaient peut-être besoin de relâcher un peu de pression, qui étaient devenues trop riches et qui ont décidé de se taper dessus. Avec peut-être la guerre des cochons, apparemment, qui aurait été un épisode entre 1906 et 1909, un peu un épisode annonciateur entre le royaume de Serbie et l'Empire austro-hongrois. C'était un petit peu la pierre angulaire qui aurait pu mener à la Première Guerre mondiale. Ils avaient eu un conflit sur le commerce et l'export de cochons de la Serbie.
Oui, et cette guerre que lui présente effectivement comme complètement factice, jusqu'à par exemple l'annonce du... c'est incroyable. Et c'est ce qui est, je trouve, formidable dans ce livre, c'est qu'on a à la fois donc, le côté... on apprend plein de choses sur la littérature, il y a beaucoup de réflexions, etc. Mais du point de vue historique, on apprend en fait de grands faits, vraiment dans des notions vraiment très importantes, mondiales, mais du point de vue de quelqu'un qui les a vécues de manière concrète et qui arrive à trouver les petits moments pour faire passer justement certaines grandes idées de cette façon-là. Donc c'est extrêmement pédagogique, je trouve, ce livre. C'est assez fou. Et effectivement, il y a un passage... c'est incroyable où il raconte comment lui s'était retiré dans un petit village en Autriche assez, assez pittoresque et puis écouter donc la fanfare du coin sous les arbres au printemps en écrivant en lisant un peu distraitement un livre qui l'intéressait et en profitant un peu du soleil et tout d'un coup la musique s'arrête, voilà, quelque chose vient de se passer de grave. On regarde, effectivement, les journaux annoncent que l'assassinat voilà, du fameux aristocrate qui a lancé la guerre de...
Prince Ferdinand.
Voilà, le prince Ferdinand, donc, qu'on a présenté après comme étant le... Donc, effectivement, nous, quand on voit ça aussi petit, on apprend, on se demande un peu pourquoi ce prince Ferdinand, tout d'un coup, déclencherait une guerre mondiale. Et en fait, c'était exactement la réaction des gens, c'est que les Viennois, les Autrichiens, ne l'appréciaient pas du tout, ce prince Ferdinand. Et donc après, donc ils apprennent, ok, sa mort, donc ok, petite stupeur quand même, c'est un phénomène quand même, ça arrive pas tous les jours. Puis après, évidemment, on se dit, bah en fait, bon, bah, peut-être qu'on pourra passer à autre chose, peut-être qu'on pourra avoir quelqu'un d'autre qui va régner, ça sera peut-être plus intéressant. Finalement, les gens sont plutôt contents, et puis on recommence, voilà, on rejoue la musique, on continue, et puis on avance, et on se dit que le monde ira peut-être mieux plus tard. Et c'est incroyable, et les gens ont l'impression de se faire, en tout cas Stefan Zweig, il a eu l'impression de se faire manipuler quand... Plus tard dans les journaux, on fait passer ce crime comme un affront au peuple autrichien qui aimait son prince Ferdinand tellement fort qu'ils le regretteront à jamais et que ça motive tout le monde à s'engager dans une guerre sanglante, etc. Et complètement délirante quoi, par rapport à ce qui s'est passé du point de vue concret, psychologique des gens de l'époque. Et ça aussi, ouais, c'est effectivement ce que tu disais d'une guerre qui paraît très, très instrumentalisée en fait.
Et je vois aussi des parallèles avec aujourd'hui, donc tu parlais de Tolstoï ou Dostoïevski qui ne s'est plus présenté dans certaines universités.
Ouais.
On parle aussi d'exil culturel avec Shakespeare qui n'était plus représenté dans les théâtres allemands ou Mozart et Wagner qui avaient quitté les salles de concert françaises et anglaises. Et il y a aussi cette idée d'accaparation des artistes ennemis. Par exemple, des professeurs qui essayeraient d'expliquer que Dante avait des racines germaniques ou bien que Beethoven aurait des racines belges. Ça, par exemple, j'ai regardé et il se pourrait qu'il ait des racines belges parce que Van Beethoven, donc du coup, Van,
ah, oui,
ce serait, c'est pas Von, donc ce serait plutôt néerlandophone. Il se pourrait que ce soit un petit village que des racines et cette idée de vol de trésors culturels.
Ouais. Ouais, ouais.
Comme s'il s'agissait de grains ou de métaux précieux, c'est comme ça qu'il le dit. Mais on essaye de démoraliser l'ennemi comme on peut.
Et justement, lui, qui a cette honnêteté justement éducative, de montrer en quoi il s'est développé intellectuellement en lisant les auteurs français, en lisant les auteurs allemands, et pas seulement donc les auteurs russes, etc., en lisant un peu tout le monde justement, et que c'est ça qui construit sa culture. Et tout d'un coup, quand il a vu, lui, pendant la guerre de 14, des gens commençaient à distinguer une culture allemande d'une culture française, mais tomber des nues, quoi. Pour lui, c'était vraiment, ça n'avait aucun sens. Pas parce qu'il n'aimait pas l'Allemagne ou parce qu'il n'aimait pas l'Autriche. Ou... Non, c'est juste que la culture, c'est pas ça. C'est pas le fait de, tout d'un coup, commencer à mettre des murs. Au contraire, c'est comment est-ce qu'on apprend avec ce qui existe et comment est-ce qu'on fait autre chose. C'est aussi impressionnant. Justement de la part de quelqu'un qui montre à quel point aussi il a connu le succès, en fait. Donc quelqu'un qui nous dit, voilà comment ça marche, finalement, d'une certaine façon. Faites comme moi, et faire comme lui, c'est pas construire des murs.
Il y a plusieurs passages sur le sentiment européen. Par exemple, le succès qui était célébré de tous, la traversée de la Manche par Blériot en aéroplane. qui a été célébré comme une victoire européenne, ou bien tout ce qui triomphe de la technologie et des sciences. Il y a un épisode où il y a le crash du Zeppelin, et il est avec son ami Brahan, et il le voit les larmes aux yeux. C'est aussi un homme qui était assez européen, Brahan, dans ce cas à présent, avec, qui voyait les succès allemands comme étant les siens, et tout comme les défaites aussi étant les siennes. Et c'est vrai que tu as un dernier point sur l'entre-deux-guerres, avec cette idée d'agitateur, ça c'est vraiment le terme. Il y avait en fait, ça se reproduisait un petit peu comme des petites bulles. Donc ça commençait à grossir, puis ça, la mousse ne prenait pas, ça explosait, ça laissait une odeur un peu rance. Mais il explique un peu rance comme les plaies de l'Allemagne, toujours les plaies de la Première Guerre. Et puis ça a pris pour Hitler, par exemple. Et...
Ouais, alors que personne n'y croyait, personne ne pensait que justement cet agitateur-là, qui était un des 40 agitateurs de l'époque, qui était complètement dévalorisé aussi, ça je trouve assez intéressant du point de vue de la culture, de la tradition. C'est donc justement quand on essaie de nous faire croire qu'il y a une sorte enfin, on pourrait penser de manière un peu rapide qu'il y a des tensions, des tendances en Allemagne, par exemple, la culture allemande est développée, le nazisme, machin. Mais par exemple, en tout cas en Autriche, la société autrichienne traditionnelle est extrêmement protégée contre cette tentative-là, dans le sens où justement. Déjà, quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, c'était impensable qu'il ait quelque chose à dire en politique. Donc, un Hitler qui n'a même pas réussi je crois qu'il a, il n'a même pas eu son degré d'école, enfin, il a une éducation très très faible, n'était même pas pris en compte du point de vue de la société, c'était impensable. Donc, c'est quelque chose qui a dépassé la norme de la société, qui est sorti complètement du cadre de ce que voulaient les gens, finalement, du point de vue admis, du point de vue institué. Donc une sorte d'ovni justement culturel, quoi. Et alors, Hitler habitait en face de sa maison, Stephenson, donc il y a une partie de son existence où il a habité sur une colline, il avait racheté un château, donc Stephenson, et il pouvait voir en fait en face de chez lui Hitler, avant qu'Hitler ne devienne connu. Et puis à un moment donné, il s'en est un petit peu rendu compte et il a déménagé. Il y a ce face-à-face qui est assez incroyable entre le... D'un côté, la personne qui a vraiment été un des moteurs les plus forts de la cohésion culturelle en Europe et le fait d'accroître quelque chose, et puis quelqu'un qui a été vraiment l'agent de la destruction du XXe siècle, et qui se sont retrouvés quasiment dans un rayon d'action extrêmement resserré. C'est impressionnant.
Alors, un dernier truc qui m'a marqué, et ça je trouve qu'il en a parlé sans fracas. La plupart de tous ces trajets, c'était en train. Mais à un moment, vers la fin du livre, je pense qu'il parle d'un trajet avec la ligne avec Imperial Airlines. Et ça,
en fait,
sont donc les premiers vols commerciaux. Parce que moi, j'avais toujours eu en tête que ça a peut-être commencé dans les années 40 ou 50.
Ah oui, d'accord.
Donc ici, on est sûrement dans les années 30.
Ah, oui,
et
d'accord.
On parle quand même d'un vol, je crois, de Londres en Autriche. Et ça m'a étonné parce que ça devait être... Ouais. Sûrement un des premiers vols, disons, peut-être qu'il y avait eu, pas avec la fréquence qu'on connaît aujourd'hui.
Et là, c'est intéressant, je n'ai pas relevé ça. Ouais, donc comme tu dis, non, il a pas forcément souligné ce côté-là, alors qu'effectivement, ça devait être un peu particulier quand même.
Niveau placé dans la ligne du temps, je n'aurais pas imaginé ça à cette époque-là. Moi, je trouvais ça à chaque fois dans les années 50, peut-être.
Du point de vue, c'est pareil, du point de vue perspective d'époque, je trouve ça intéressant aussi comment il perçoit le changement d'époque entre le début du XXe siècle, le milieu du XXe siècle, ce qu'il appelle le monde d'aujourd'hui, un peu, donc la guerre de 40, qui possède plein de caractéristiques avec notre époque à nous, en fait. Mais aussi des choses, donc il n'y a pas que du négatif quand il compare les mondes, et lui, il croit, donc il y a beaucoup de choses qui l'intéressent dans la société des jeunes des années 40. Notamment, c'est assez amusant quand il parle de la santé physique, et à quel point ça lui fait plaisir de voir des gens qui arrivent à sortir justement de la pauvreté ou de la famine ou du rachitisme, à développer leur corps, à faire des exercices physiques. Et ça, c'est tout à fait rigolo aussi quand il parle de son éducation. Donc, il explique carrément son rythme de sommeil, donc de lecture et de sommeil. Et il expliquait que lui, ado, voilà, il, sa vie, c'était à l'école, il étudiait. Chez lui, il lisait autant qu'il pouvait. Il se couchait tard dans la nuit, 2h du matin. Il se réveillait tôt le matin parce qu'il était pris dans cette espèce de rythme d'en vouloir toujours plus, toujours plus. Et aucun sport. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc maintenant, on nous fait croire que pour avoir une éducation équilibrée, il faut faire du sport, etc. Mais ça dépend. Mais effectivement, donc lui, voyait quand même ça de façon intéressante aussi, mais sans jugement et tout ça, mais qu'il y a eu des changements. On a inventé aussi, un peu à cette époque-là, le fait de pouvoir se redévelopper physiquement, et donc le fait d'être plus grand, plus fort, et lui dit plus beau, C'est quelque chose qui est relativement récent.
Oui, et puis peut-être le dernier truc qui m'a marqué, c'était l'épisode avec Richard Strauss, parce que je pense, si je me souviens bien, Strauss voulait adapter une des œuvres de Stefan Zweig, sauf que Strauss, il a commencé à se rapprocher un petit peu du régime nazi, sauf qu'il y a eu le problème qu'étant donné que Zweig était juif, ça n'allait pas trop d'avoir son nom sur les affiches.
Mais parce que Strauss s'est rapproché du parti nazi tout en voulant absolument maintenir son contact avec Zweig.
Ouais.
Donc ça, c'est intéressant. C'est une espèce d'ambiguïté très étrange de Strauss, voilà, qui a joué ce rôle-là, jusqu'à ce que ça ne passe plus du tout du point de vue du gouvernement nazi. Mais pendant un certain temps, c'était intéressant. Ça crée une espèce de... Il essaie de jouer de son influence pour maintenir une sorte de présence culturelle ouverte à Zweig, par exemple, dans l'Allemagne nazie. Et à tel point que pendant un certain temps, Hitler était obligé d'aller contre ses motivations premières et de prendre des décisions qui comprennent. Donc il y avait quand même cette espèce de jeu intéressant. Mais évidemment, à un moment donné, ça n'a pas marché. Malgré le fait qu'il ait quand même réussi à faire jouer sa pièce dans l'Allemagne nazie pendant une ou deux représentations quand même. Pièce qui a été bien accueillie, qui a eu des bonnes critiques, donc très intéressant. Mais après, du jour au lendemain, paf, censure de la pièce. Strauss a été renvoyé de son poste. Et ça s'est mal passé, mais donc il y a eu, oui, cet épisode assez étrange de ce jeu de pouvoir.
Ouais, mais il y a peut-être un petit côté, alors, un dernier point là-dessus, on voyait et on voit ça avec pas mal de tyrans et dictateurs, c'est de tester les limites un petit peu. Donc on s'était dit, est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va être accepté, est-ce que ça va marcher? Si personne n'y réagit, on se dit que ça, c'est bon.
Je trouve que c'est une des leçons historiques de ce livre, hein. C'est ce que dit Stephen Zweig, c'est que lui, ce qu'il a appris de cette époque-là, c'est que des choses complètement impensables ont réussi à arriver avec la technique de la grenouille dans l'eau. C'est-à-dire qu'on monte un tout petit peu la température, et il dit que c'est la seule, le seul aspect rationnel, d'une certaine façon, qui a permis aux nazis de s'imposer. C'est qu'au-delà de leur folie, etc., ils avaient cette espèce de façon de faire qui a fonctionné, parce qu'ils faisaient très très attention justement à chaque fois, donc à faire des choses atroces, mais toujours par palier, et de se calmer juste le temps que les gens oublient, qu'on arrête d'en parler un petit peu, et pour faire un petit truc. Et à chaque fois, ça a créé, en fait, ils ont remonté le niveau de l'acceptable, de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose, une tendance qu'on peut... voilà, je pense qu'on n'aura jamais assez, qu'on méditera jamais assez, le fait de pouvoir se prendre du recul pour ne pas accepter ces phénomènes de haussement de la normalité. Il y a des valeurs qui sont là, et il ne faut pas se laisser justement trop conduire par une espèce de tendance générale à tout d'un coup à sortir de à considérer que tout d'un coup ça devient normal de faire des choses qui n'étaient pas du tout sous prétexte que certains ont réussi à imposer certaines idées, quoi.
Ouais. C'est comme ça qu'on détricote les démocraties ou les libertés aussi, petit à petit.
Ouais. En jouant par exemple le vocabulaire de certaines personnes. Qui arrivent à incorporer leur vocabulaire dans un contexte qui n'en a pas besoin forcément, et on devient, on récupère ce vocabulaire-là et ça devient une nouvelle norme. C'est assez impressionnant.
Et puis si on parle de liberté, et on peut aussi passer au livre de Colson Whitehead, Underground Railroad, qui est un livre qu'on a lu avec Tib. Clément, toi, je sais que tu l'as sur ta pile de lecture,
ouais.
Qui est infini, qui touche le ciel plus ou moins, j'imagine. Un peu comme nous.
C'est ça, une très belle... oui, non.
Il y a sans fin.
Il y a beaucoup de choses. Mais effectivement, lecture récente que je m'étais programmée dans pas trop longtemps. Voilà, j'avais trouvé qu'il y avait des bonnes critiques, ça avait l'air intéressant. Je pensais que tu parlais quand tu parlais d'Infini sans fin, je pensais que tu parlais de la couverture, parce que c'est une édition livre de poche. C'est un rail de chemin de fer qui s'envole vers le ciel et se transforme en oiseau.
Ah, ça, j'avais pas vu. J'ai une autre version.
Parce que donc c'est un livre sur la liberté, en fait, c'est ça?
C'est un livre sur pas mal de thèmes, et notamment l'esclavage, c'est le thème principal. Tip, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu t'en souviens assez bien?
Oui, je pense que j'ai lu ça il y a une grosse année, une bonne année, on va dire, quelque chose comme ça. Oui, en fait, comment expliquer ça? Donc en fait, ça parle de l'esclavage, effectivement, et donc de toute cette société ségrégationniste aux États-Unis qui a quand même perduré assez longtemps. En fait, ce que l'auteur imagine, c'est Oui, donc en fait, le départ, ça se passe vraiment dans les pires endroits, en fait, des États-Unis pour les Noirs à cette époque-là. On est quand même encore. Je ne sais plus. Je vérifie si on est encore au 19e à ce moment-là. En tout cas, c'est dans le cadre des plantations de coton. Et donc, c'est en Géorgie. Évidemment, on a des descriptions de toutes les maltraitances que subissent les esclaves noirs là-bas. Et ce que l'auteur imagine, c'est qu'il existe un réseau de trains souterrains où des esclaves en fait, pourraient s'échapper et aller vers le nord, où on trouve les états abolitionnistes, hein, où il n'y a plus d'esclavage. Et donc, c'est ça la grande idée en fait, hein, du livre, et je ne révèle pas grand-chose en disant ça, parce que ça vient assez vite. C'est de, tout l'enjeu en fait, pour la jeune fille au centre du récit, c'est d'y accéder et de se sauver, quoi, finalement. Alors, donc, le livre en fait, a eu un retentissement assez incroyable, hein, parce qu'il y a eu le prix Pulitzer, donc un des plus grands prix de fiction aux États-Unis. L'auteur d'ailleurs, Colson Whitehead, a réussi l'exploit en fait d'avoir après avec son roman suivant de nouveau le Pulitzer, si je me souviens bien. Donc voilà, une critique qui était vraiment dithyrambique. Mais alors moi j'ai trouvé ça bien. Hein, attention, c'est parce que je suis quelqu'un de sans doute assez difficile. Ce qui m'a disons que j'étais pas aussi enthousiaste que ce que les critiques en avaient dit. Et c'est peut-être ça que j'ai mais sans avoir eu tout ça, peut-être que j'aurais pas été légèrement déçu, on va dire. Ce qui m'a un peu déçu, c'est que en fait, par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire chez les Américains, ben on a ici finalement quelque chose d'assez linéaire, quoi. Donc finalement, on suit le parcours comme ça, voilà, du début à la fin, quoi, finalement. Et je trouve que dans les romans américains, en tout cas, que je lis, que j'ai l'habitude de lire, ce que j'apprécie le plus, on a quelque chose d'un peu plus complexe au niveau de la construction. Et donc, c'est ça où je suis un petit peu resté sur ma faim, en fait. Et ça n'en reste pas moins quelque chose de tout à fait recommandable. Attention, je précise quand même que c'est parce que je suis quelqu'un d'assez difficile et j'ai l'habitude de lire des choses, voilà, d'être un peu plus complexes en termes de construction, en tout cas.
Et quand tu parles d'auteur américain, est-ce que tu veux dire un peu ce côté, pas halluciné, mais un peu poétique dans le sens complet, quoi, comme des romans qui essaie de tout dire en même temps, un peu romantique, tu vois, de cette façon-là, un peu côté... Et du coup, ce livre-là, c'est un peu plus traditionnel.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est un peu plus traditionnel dans la narration. Donc, c'est la seule petite réserve que j'avais.
Moi, j'aurais tendance à dire que j'étais plutôt déçu aussi.
Ah. Non, ne m'inclus pas c'était... dans ton plutôt déçu, s'il te plaît, parce que je n'allais pas jusque-là.
Ah, d'accord. Donc, moi, je dirais que j'ai été plutôt déçu. Au contraire de Thibaut qui a trouvé que c'était ok. Pour moi, les personnages restaient assez distants, peut-être un petit peu surfaits. Peut-être regretter aussi le mélange des événements historiques. Parce que, par exemple, on va parler de programmes de stérilisation des femmes noires ou des études sur la syphilis, sur les individus, les hommes noirs, donc pour voir comment la syphilis évolue. Alors qu'en fait, malheureusement, ce sont des programmes qui sont bien plus récents que ça, donc ça s'est passé au siècle dernier, alors que l'histoire ici, c'est il y a 2 siècles. Donc ça pourrait quand même un petit peu mener à confusion sur au niveau historique de ce qui a été fait. Donc ça reste intolérable, mais c'est mélangé des faits. Je trouve que ça, c'est une œuvre de fiction, donc on peut être trompé, mais je trouvais que c'était peut-être pas nécessaire de mentionner tout ça à ce moment-là de l'histoire. Mmh. Et puis... Bon, je n'ai pas été trop naïf non plus sur l'idée du chemin de fer souterrain, mais j'ai quand même vérifié, parce que ça m'étonne
quand
même.
Moi aussi, en fait, pour être très honnête.
Parce que donc, ça a été matérialisé par l'auteur, donc il y avait cette idée de chemin de fer clandestin, c'était en fait plutôt une sorte de réseau de personnes, de blancs, d'affranchis, qui aidaient les esclaves qui étaient parvenus à s'échapper, à s'enfuir, à trouver refuge. Donc, les refuges étaient appelés, par exemple, des gares ou des stations. Il y avait des arrêts, il y avait aussi des billets. Donc, il y a toute cette terminologie qui nous provient du monde ferroviaire. Mais tout au mieux, il y avait peut-être de temps à autre un tunnel ou un passage souterrain, mais rien à voir avec des rails, avec des locomotives. Et donc, là, l'auteur, il a cette liberté. Il va nous inventer des trains, des plateformes souterraines. Il pourrait, peut-être, si c'était donné à un public plus jeune ou peut-être à un public plus naïf, qui pourrait se dire, il y avait déjà des trains souterrains à l'époque, il y a 200 ans, ça fonctionnait sans problème. Ça pourrait un petit peu mener à confusion aussi. On voit par exemple, pour retourner sur l'Allemagne nazie, apparemment, Hitler était plutôt impressionné et satisfait de ce qui se faisait aux États-Unis au niveau de stérilisation dans certains États et tout ce qui est eugénisme.
Approuvé par Hitler, c'est la mention marketing
de l'époque. Ouais, malheureusement. Et ben, ce que j'ai lu, il y a encore en fait des cas d'eugénisme, par exemple en prison aux USA, Californie. Donc, il y a des hommes et des femmes qui sont stérilisés parfois contre
D'accord, contre
leur
leur
bon
volonté,
vouloir,
quoi.
donc
D'accord.
sans se rendre compte des enjeux de ce qui se fait. Pose question aussi au niveau éthique. Et puis, je trouvais que l'histoire principale était parfois mise entre parenthèses pour couvrir des personnages secondaires qui n'apportaient pas toujours grand-chose. Et on a, ben ça, j'ai lu en fait quelqu'un qui commentait que. On a le personnage César qui, en fait, pousse la jeune fille Cora à s'enfuir. Donc, il s'enfuit à deux, plus une autre personne. Et lui, on voit vraiment qu'il disparaît. Quand à un moment, il disparaît de l'histoire, on s'en rend à peine compte parce qu'il avait presque aucun poids sur l'histoire. Et on voit qu'il a été utilisé. On était arrivé au bout, au terminus, et qu'on s'en est débarrassé un petit peu comme d'un malheureux objet. Et je trouve que c'est un peu un comble quand on parle d'esclavage et de la
On ne peut
manière
pas
dont.
prendre le temps de créer des personnages oui, en profondeur, analysés en profondeur.
Ouais, et qu'on s'en est débarrassé comme d'un objet, comme
Ouais.
on traitait les esclaves un peu de cette même manière aussi. Donc ouais,
Ouais.
là, c'est un peu un comble, du coup.
Et alors, quand vous parliez de littérature américaine, moi je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a fait penser justement un petit peu à l'envers, dans le côté de ce que justement vous recherchiez peut-être plus dans la littérature américaine. Et par rapport à la thématique de l'esclavage, Le Chant de Salomon de Toni Morrison. Ou...
Je connais Toni Morrison sur Les yeux bleus, il n'y a pas un petit truc comme
Bien
ça?
possible, c'est bien possible.
Un terme avec bleu, donc c'est sur ma liste, mais je n'ai pas
Parce
lu.
que moi j'ai un petit peu cette image, et quand je regarde un peu les critiques, effectivement, ça a l'air de correspondre un peu donc sa façon d'écrire. Donc quand je lis le résumé de Babelio, c'est plutôt donc mêlant burlesque et tragique entre rêve et réalité, une fresque, quête mythique. Donc quelque chose d'extrêmement, effectivement, plus fouillé, ambitieux, qui mélange différents styles, qui va un peu comme Moby Dick aussi, quelque chose de très, très intense. Et ça, ça a l'air d'être une caractéristique quand même souvent, effectivement, associée à la littérature américaine, qui du coup, dans ce que vous dites, n'est pas du tout utilisée par l'auteur de Une des grandes railroads, quoi.
J'ai aussi vu que l'œuvre avait été adaptée en série par Amazon,
Ah ouais.
par Barry Jenkins, qui a en fait aussi réalisé le film Moonlight, mais aussi le film Si Beale Street pouvait parler. Donc ça a été en fait écrit par James Baldwin, qui est aussi un auteur assez connu. J'avais d'ailleurs parlé de ce film-là
Oui,
dans
tout à fait.
notre récap, qui était pas mal aussi. J'ai vu par hasard en fait que Barry Jenkins il y avait eu, malheureusement, il avait été victime du fiasco aux Oscars il y a quelques années, où ils avaient
Ouais.
donné l'Oscar au mauvais film. Je crois que c'était
Ah bon.
PwC qui avait un petit peu l'entreprise qui avait mélangé les enveloppes au moment d'annoncer le prix. Comme ça, deux partners de l'entreprise qui s'était un petit peu, qui avait un peu perdu le nord sur le moment.
Incroyable.
Donc, il y a toute une histoire sur Wikipédia et dans plein, plein d'articles en ligne. Donc maintenant, il faudra un senior partner. Pour les aider, pour être sûr qu'ils ne se trompent pas dans les enveloppes, avec aussi interdiction d'utiliser les téléphones portables pour éviter qu'il y ait des fuites juste avant l'annonce.
Et donc, quel film a été primé alors
Moonlight.
Donc, Moonlight, et c'est Moonlight qui a été primé par erreur, c'est ça? Ou...
Non, qui en fait, je crois que c'était La La Land qui avait été primé,
D'accord.
parce que je crois que c'est Emma Stone qui devait recevoir l'Oscar de la meilleure actrice, ou peut-être le rôle secondaire, je ne suis plus sûr. Et la personne qui avait l'enveloppe a lu ce nom-là, en fait, allait décerner le mauvais prix au mauvais moment.
Et ils sont revenus donc sur leur décision, et donc ils
Oui.
ont voulu rétablir le.
Voilà, donc toute l'équipe était
Marrant
sur
ça.
scène. Et puis, je crois que le
Ouais.
réalisateur de La La Land a appelé Barry Jenkins et toute l'équipe à monter sur scène. Et ils leur ont dit, écoute, c'est pas pour nous, c'est pour vous. C'est bien mérité. Donc, bon
D'accord.
fiasco, quoi. Le film Moonlight était pas mal aussi.
Mais je le verrai bientôt parce qu'il est sur ma liste, donc ça, d'ici quelques semaines, à mon avis, on retrouvera peut-être un thème pour en parler alors.
Ça fait penser au. Je sais pas si ce sera votre thème, mais il y a en ce moment au Palace, il y a Cinéma Palace, il y a le film Animals qui est sorti, qui joue ce joyau aussi, hein, mais donc un film assez choquant, enfin en tout cas très réaliste, mais par rapport à l'assassinat d'un jeune homme à Liège par homophobie. Et donc il rejoint un tout petit peu apparemment la problématique de Moonlight. Et donc ça a l'air d'être quand même un gros événement en ce moment, ce film. On a reçu des dossiers pédagogiques pour éventuellement en parler en classe. Mais voilà, la bande-annonce laisse présager quelque chose de vraiment très très dur à regarder. Mais par contre, sujet effectivement tout à fait intéressant.
Et d'ailleurs, le film a joué le rôle principal dans Moonlight avec Mahershala Ali, qui était aussi pas mal dans Green Book, qui est sorti il y a quelques années. Je crois que c'est celui-là qui a reçu le prix alors. C'est aussi de Barry Jenkins.
J'aurais dit non, mais peut-être que je me trompe.
Avec
Green Book, aussi. C'est un film de Peter Farrelly.
Et puis, il a aussi joué dans True Detective. C'était aussi pas mal. La troisième saison. Et on le connaît aussi dans House of Cards. Il joue un consultant politique.
Je suis en train de penser par rapport au train au livre La Modification de Michel Butor. On en reparlera quand je l'aurai lu. Mais en tout cas, ouais. C'est vraiment quelque chose qui a l'air assez incroyable. Quelqu'un qui parle justement en Italie, donc on parle de Mussolini, un peu le fasciste, tout ça, mais c'est un peu dans ce contexte-là. Mais en l'occurrence, ce sujet, c'est une histoire d'amour. Quelqu'un qui essaye de prendre une décision par rapport à la femme qu'il doit aimer, en fait. Et tout se passe dans ce voyage de train qui a un peu le contexte de son choix de vie et de sa prise de décision.
Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.